VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 14 novembre 2023. L'armée malienne a pris le contrôle de la ville de Kidal, bastion des rebelles Touareg dans le nord-est du pays. Des manifestations de joie ont aussitôt éclaté un peu partout dans le pays.
Alors que le Mali est rentré à Kidal, sans la France, sans l'opinion internationale, on est rentré avec nos propres moyens. Dieu merci, je suis vraiment animé d'une grande joie.
Les Libériens, eux, ont voté aujourd'hui en vue de départager au second tour le président sortant George Weah et l'ancien vice-président Joseph Boakai. Génocide au Rwanda, le procès d'un ancien médecin s'est ouvert à Paris. Le principal hôpital de la ville de Gaza, au cœur des combats entre Israël et le Hamas, est privé de nourriture, d'eau et d'électricité au 39e jour de la guerre. Vaste rassemblement en soutien à Israël ici à Washington. Ne manquez pas nos pages fortes ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Mali, l'armée a pris la ville de Kidal dans l'extrême nord, bastion des rébellions Touareg et enjeu majeur de la souveraineté pour l'État malien. Claire Morin-Jibou.
Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal, a déclaré le colonel Assimi Goïta au cours d'un flash spécial à la télévision d'État. Un peu plus tôt, l'état-major a indiqué que les FAMAS ont pris position dans la ville. Un responsable du cadre stratégique permanent, Alliance de groupes rebelles armés, a paru reconnaître la perte de Kidal. « Nous continuons notre lutte pour l'honneur et la dignité de notre peuple avec plus de détermination. C'est la fin d'un épisode, mais le feuilleton vient juste de commencer », a-t-il dit sous le couvert de l'anonymat. La prise de Kidal est un succès considérable pour la junte et elle est célébrée dans plusieurs villes du Mali, de Kaï à Bamako, de Sikasso à Tombouctou. L'armée et l'État malien n'avaient pas repris pied à Kidal depuis mai 2014. Les forces maliennes avaient subi une cuisante défaite pendant une visite du premier ministre de l'époque, Moussa Mara. Kidal, foyer de toutes les rébellions Touareg, s'est vidé d'une grande partie de ses quelques dizaines de milliers d'habitants.
Des scènes de joie ont éclaté aux quatre coins du Mali pour célébrer l'entrée des forces armées maliennes à Kidal. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, fait le point.
On est joyeux. Et parce que nous, à notre niveau, au sein de l'Alliance pour la refondation du Mali, depuis que les Assimi ont pris le pouvoir, nous avons su que c'est les sauveurs du Mali.
Pour Fatou Diaby, le choix du monument de l'indépendance pour manifester sa joie n'est pas fortuit.
Le boulevard ne peut pas seulement être un lieu de revendication. À chaque fois que les gens viennent sur le boulevard, c'est pour revendiquer, c'est pour dire ceci, c'est pour dire cela. Et nos femmes méritent, ils sont décédés pour nous, ils sont restés sur le champ de bataille pour nous, ils méritent amplement qu'on vienne danser pour eux.
Membre du Conseil national de transition, Salou salue la bravoure des forces armées maliennes.
Il y a plus de 12 ans, on nous a dit que le Mali ne peut pas être à Kidal. Alors que le Mali est rentré à Kidal, sans la France, sans l'opinion internationale, on est rentré avec nos propres moyens. Dieu merci. Je suis vraiment animé d'une grande joie.
Au Libéria, les électeurs votent ce mardi pour départager le président sortant, George Weah, et Joseph Boakai, un vétéran de la politique. Mamadou Mfa fait le point.
Plus de 2,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ce second tour de la présidentielle s'annonce serré entre deux candidats, le président sortant George Weah, 57 ans, et Joseph Boakai, 78 ans, ancien vice-président. La participation sera un facteur important de l'issue du scrutin. L'élection représente sans aucun doute une étape cruciale dans la consolidation de la paix et de la démocratie au Libéria et dans la région, a dit l'ONU dans un communiqué récent. La commission électorale a 15 jours pour publier les résultats, mais l'affaire pourrait prendre moins de temps, dit un de ses responsables. La CDAO a mis en garde les auteurs de troubles, d'appels à la haine et de violence.
Au Togo, deux journalistes ont été placés en garde à vue lundi soir à Lomé. Loïc Lawson, directeur de publication du journal Flambeau des démocrates, et Anani Sossou, journaliste indépendant, sont accusés d'avoir publié sur les réseaux sociaux que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Koudjo Adedze, a surévalué le montant volé à son domicile début novembre. En mars dernier, deux journalistes ont déjà été condamnés par contumace à 3 ans de prison ferme par le tribunal tribunal de grande instance de Lomé pour outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers sur les réseaux sociaux à la suite de plaintes de deux ministres, dont M. Adedze. Un sixième procès lié au génocide des Tutsis au Rwanda s'est ouvert en France. Un ancien médecin rwandais, Sosten Munyimana, accusé d'avoir participé au massacre en 1994, a commencé à comparaître devant la cour d'assises de Paris. Le point avec Rosine Monizero.
Placé sous contrôle judiciaire, ce gynécologue à la retraite, âgé de 68 ans, est jugé pour génocide, crime contre l'humanité, participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes, ainsi que pour complicité des faits qu'il conteste. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'agit du plus ancien dossier instruit en France sur des faits liés à ce génocide qui a fait plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994, selon l'ONU. La première plainte contre Sosten Munyimana, qui avait rejoint le sud-ouest de la France après le génocide, a été déposée en 1995, entraînant l'ouverture d'une information judiciaire. Plus d'une centaine de personnes et 8 associations se sont constituées parties civiles pour ce procès et près de 70 témoins doivent être entendus. 6 hommes ont déjà été condamnés en France pour leur participation au génocide à des peines allant de 14 ans de réclusion à la perpétuité. 3 d'entre eux doivent encore être jugés en appel.
Aloïs Ndibati, l'un des derniers fugitifs recherchés pour son rôle présumé lors du génocide au Rwanda en 1994, est mort dans le pays en 1997, ont annoncé ce mardi des procureurs internationaux. Maire de la commune de Kizovu, Aloïs Ndibati était accusé d'avoir joué un rôle prépondérant dans l'extermination des Tutsis de la préfecture de Kibuye, notamment en ordonnant aux gendarmes et policiers sous son autorité de les attaquer et en les amenant dans des endroits où certains de ces Tutsis s'étaient réfugiés. La crise politique à Madagascar s'est encore aggravée ce mardi. À 2 jours du premier tour de la présidentielle, le collectif qui rassemble 10 candidats de l'opposition appelant unanimement les Malgaches à ne pas se rendre aux urnes. 13 candidats sont en liste, dont le président sortant, André Rajoel, 49 ans. Les 10 membres du collectif ont refusé de faire campagne pendant que le candidat du pouvoir, qui dit compter sur une victoire dès le premier tour, a rallié ces dernières semaines des milliers de soutiens aux 4 coins du pays où il s'est rendu en hélicoptère ou en avion privé. L'Éthiopie n'a pas l'intention belliqueuse vis-à-vis de ses voisins, mais n'abandonnera pas sa prétention à un accès à la mer Rouge, a réaffirmé ce mardi son premier ministre Abiy Ahmed aux députés. Le 13 octobre, M. Abiy avait suscité l'inquiétude en expliquant dans un long discours télévisé que la paix dans la région dépendait d'un accès à la mer Rouge pour l'Éthiopie enclavée et ses 120 millions d'habitants qui en font le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Abiy Ahmed assure que l'Éthiopie ne fera pas valoir ses intérêts par la guerre, mais uniquement par le dialogue.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et maintenant, les dernières nouvelles de la guerre israélo-palestinienne, la guerre entre Israël et le Hamas, avec Jacques Aristide.
Parmi les 179 corps enterrés aujourd'hui dans cette fosse commune, figurent ceux de 7 bébés prématurés morts, faute d'électricité pour les maintenir en vie, indique le docteur Mohamed Abou Salmiya, directeur de l'hôpital Al-Shifa. Le président américain Joe Biden appelle Israël à la retenue, ajoutant qu'Al-Shifa doit être protégé. L'armée israélienne, qui accuse le Hamas d'utiliser les malades et les déplacés comme boucliers humains, déclare ne pas cibler cet hôpital. Elle fait état d'efforts pour y transférer des couveuses d'un hôpital israélien. Tsahal affirme également avoir pris possession des institutions du Hamas dans la ville de Gaza, notamment le Parlement et les bâtiments du gouvernement et de la police. D'après Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, la Croix-Rouge n'a pas rencontré les personnes prises en otage. Eli Cohen est aussi d'avis que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ne mérite pas de diriger les Nations Unies. Guterres n'a encouragé aucun processus de paix dans la région. Je pense que Guterres, comme toutes les nations libres, devrait affirmer haut et fort « libérer Gaza du Hamas », dit-il. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris de nouvelles sanctions communes contre le Hamas et des personnes affiliées, notamment un responsable du djihad islamique palestinien.
Et l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir pris possession du Parlement, des bâtiments du gouvernement et de la police du Hamas dans la ville de Gaza. Ici, aux États-Unis, vaste rassemblement en soutien à Israël. À Washington, des dizaines de milliers de personnes ont pris d'assaut le National Mall à Washington, grande esplanade qui s'étend du Capitole au Mémorial de Lincoln. Ce rassemblement qui débute en ce moment même vise à demander la libération de 240 personnes prises en otage. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Alexandrine Nolognon.
Le bitcoin a augmenté d'environ 37% au cours du mois dernier pour atteindre environ 37 000 dollars après des mois d'apathie. Un rebond qui a encouragé les mineurs à brancher leur puissant ordinateur pour résoudre les énigmes et vendre les pièces nouvellement frappées. La moyenne sur 30 jours des revenus gagnés par les mineurs s'est améliorée régulièrement cette année pour atteindre 32,46 millions de dollars le 11 novembre, selon les données de blockchain.com. L'inflation aux États-Unis a ralenti le mois dernier, signe que les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale continuent de freiner la flambée des prix à la consommation qui a tourmenté les consommateurs au cours des deux dernières années. Le rapport publié mardi par le département du travail montre que les prix ont baissé ou n'ont augmenté que lentement pour un large éventail de biens et de services, notamment l'essence, les voitures neuves et d'occasion, les chambres d'hôtel et le logement. Réseaux sociaux, la plateforme de diffusion de vidéos YouTube annonce la possibilité prochainement de demander le retrait d'impostures générées par intelligence artificielle. Les vidéos devront également bientôt préciser lorsqu'elles ont ce type de contenu. Ces nouvelles règles doivent entrer en vigueur dans les prochains mois, sur fond de crainte que des vidéos contenant des éléments générés par de l'intelligence artificielle ne servent à de la manipulation électorale, à des arnaques ou à mettre des personnes dans de fausses situations.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Bion, bonsoir à tous.
Coupe du monde de football des moins de 17 ans, le Sénégal en 8e.
Oui, les Lionceaux de la Teranga se sont qualifiés grâce à leur écrasante victoire 4-1 contre la Pologne en match comptant pour cette deuxième journée de la poule D de cette compétition qui se joue en Indonésie. À la mi-temps, les jeunes Sénégalais menaient 2-0 grâce à un but d'Idrissa Gueye et un but contre son camp de Zala. À quelques minutes de la pause, le match a été longuement interrompu à cause des conditions climatiques. Après la reprise du jeu, Idrissa Gueye enchaîne deux buts à la 52e et 69e minute. Entre-temps, la Pologne avait réduit le score grâce à Regula à la 105e minute. Avec cette deuxième victoire, en autant de sorties, les Lionceaux sont assurés de disputer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les protégés de l'entraîneur Serigne Saliou Dia vont disputer leur troisième match. Ce sera face au Japon et ce sera vendredi.
Toujours en foot, une défection de taille au sein des Léopards.
Oui, la sélection de la République démocratique du Congo ne pourra pas compter sur le latéral droit Moukoko Amalé lors du match face à la Mauritanie prévu demain mercredi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il est bloqué en Ukraine. Ce pensionnaire du FC Tchernomouret Odessa n'a pas pu faire donc le voyage pour rejoindre les Léopards de la RDC.
NBA, les Celtics enchaînent, les Bucks se reprennent.
Oui, porté notamment par Jason Tatum, auteur de 35 points, les Celtics de Boston ont enchaîné lundi en NBA face aux Knicks une troisième victoire consécutive, 114 à 98. Lors d'une soirée également marquée par le succès des Bucks qui restaient sur deux défaites face aux Bulls 118 à 109 avec 17 points inscrits dans le dernier quart-temps, Tatum a été bien aidé par Jaylen Brown, 22 points, et l'intérieur letton Kristaps Porzingis, 21 points, qui avait évolué aux Knicks au début de sa carrière NBA. Deuxième de la conférence Est avec 8 victoires et 2 défaites. Les Celtics se rendront notamment ce mercredi soir à Philadelphie pour affronter les Sixers du MVP 2023, Joel Embiid, et de Thérèse Maxé qui les devancent au classement avec 8 victoires et une seule défaite.
Page de sport VO Afrique signée Bagasikura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, la grève lancée du 2 au 8 novembre dernier par le syndicat des enseignants pour exiger le rétablissement de salaire des travailleurs suspendus suite au recensement physique des fonctionnaires divise les membres de ce même syndicat. Les responsables du CET suspendent la grève, mais la base décide de la maintenir jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Iront ou n'iront pas à l'école? Cette interrogation taraude l'esprit des parents qui doivent déposer leur enfant à l'école, surtout ceux de la maternelle, avant d'aller au travail. Les élèves des lycées et collèges ballottés entre l'appel à la reprise des cours par les responsables du syndicat des enseignants du Tchad et le comité de crise appelant à la grève sèche et illimitée imposent leur loi. Ils sillonnent les quartiers cailloux en main pour empêcher leurs camarades des établissements privés de faire cours. Le comité de crise convoque une assemblée générale pour destituer les membres du bureau national de leur syndicat qu'ils qualifient de corrompu, mais elle a été empêchée par la police.
Nous ne regagnons pas les salles de classe tant que le comité de crise ne lève pas la grève.
Nous sommes découragés par le comportement de nos leaders. Vu leur défaillance, nous allons continuer à rester à la maison et les généraux qui ont organisé ce recensement macabre puissent venir en salle enseigner les élèves.
Nous, on a décidé de ne pas regagner les salles de classe, point.
Blaise Ngartoïdé, secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, dont la légitimité est contestée par la base, informe à VOA Afrique que la grève de 7 jours renouvelables initiée par son organisation est une réponse à la suspension de salaire de plus de 7000 fonctionnaires de l'État, dont 2000 enseignants. Il donne les raisons qui ont conduit son organisation à lever ce mot d'ordre de grève pour donner une chance à la négociation qu'il a entamée avec le gouvernement sur le statut particulier des enseignants.
Les premiers qui se sont manifestés à être recensés ont commencé par gagner leur salaire au fur et à mesure par ceux qui étaient victimes de la coupe. Pendant que nous étions en négociation, la solde a en même temps viré les omis des titres de transport de 2016 à 2020. Les omis des inactifs, ils ont aussi versé leurs titres de transport. C'est une raison assez suffisante pour demander la suspension parce que ce qui nous intéresse, c'est le décret 477.
Il n'est pas question de suspendre la grève, estime le président du comité de crise du Moudal Faustin, qui appelle à une grève sèche et illimitée dans le secteur éducatif sur toute l'étendue du territoire national et dénonce les menaces qui pèsent déjà sur les membres du comité.
Nous tenons pour responsable le gouvernement pour tout ce qui adviendra aux membres du comité de crise et à tout enseignant observant cette grève. Cependant, la grève poursuit jusqu'à la satisfaction totale.
L'un des points de revendication du comité de crise que le secrétaire général du CET, Blaise Ngartoïdé, trouve un peu exagéré, c'est le remboursement des salaires coupés dans le cadre des 16 mesures qui ne sera pas seulement une lutte des enseignants seuls.
Les 16 mesures, si nous devons réclamer, doivent impliquer le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Pension publique. Satisfaction totale, c'est d'obtenir le paiement des 16 mesures. Les conséquences vont être ingérables.
Une grève qui paralyse le système éducatif tchadien depuis plus d'une semaine, mais aucune réaction du gouvernement de transition pour l'instant. André Kodumadjinga, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, les 26 candidats à la présidence ont refusé hier de signer le code de bonne conduite proposé par la Commission électorale nationale indépendante à moins d'une semaine du lancement de la campagne. Les candidats exigent de la CENI, de la transparence, entre autres, en matière de liste électorale et concernant la cartographie des bureaux de vote. Eddy Sangwa a joint à Kinshasa le président de la Ligue des élections libres et transparentes, Jérôme Bonceau.
Nous pensons que la rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avec les 26 candidats à l'élection présidentielle, c'était un moment de décrispation, un moment de reconstruction de la confiance entre les acteurs, les parties prenantes pour ces élections, donc les candidats et le pouvoir organisateur des élections qui est la CENI. Mais quant au déroulement du débat, et le débat était à la hauteur parce que le candidat était porteur, le candidat président de la République était porteur de certains facteurs, de certaines données que la CENI devait tenir compte aussi de ces données-là. Si ces données électorales étaient réelles, et c'était la CENI, de voir dans quelle mesure il devait introduire des facteurs correctifs afin d'améliorer le procès électoral.
Et que va-t-il se faire maintenant devant ces blocages? Parce que les candidats, aucun n'a accepté de signer les codes de bonne conduite. On est à moins d'une semaine du début de la campagne électorale.
Et nous pensons que c'est en quelque sorte c'est un blocage qui va contribuer à la crispation même du procès électoral, la crispation même dans le chef de parti prenante, surtout dans le chef des candidats président de la République. Et c'est d'Arseny maintenant de jouer sur une autre paire de manches, de sorte qu'on puisse se mettre d'accord pour dégager un minimum de consensus pour qu'on puisse arriver les uns et les autres parviennent à signer le code de bonne conduite. Parce que sans ce code de bonne conduite, nous pensons que le procès risquerait d'être biaisé du point de vue même comportement des acteurs et du point de vue du comportement même des électeurs. Et c'est pourquoi nous pensons qu'avec le peu de temps qui nous reste, la CENI doit activer le mécanisme, voir comment tu peux apporter des rectificatifs
justement,
dans le système de données au regard des informations qu'on lui a données.
Justement, au regard du temps que reste, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés, notamment la publication des listes des électeurs, la cartographie électorale et beaucoup d'autres points. Pensez-vous que la CENI peut résoudre ces problèmes sans qu'il n'y ait de répercussions sur la date des élections?
Et nous pensons que tous doivent courir derrière la montre. Parce que le délai de la tenue des élections le 20 décembre 2023, c'est un délai vraiment fiché. On ne peut pas même rectifier pour dire qu'il y a un certain glissement du délai sur le calendrier électoral comme prévu. Je crois que le reste de temps, nous pensons et nous le demandons même à la CENI aux uns et aux autres d'harmoniser leur point de vue de sorte que nous puissions aller engager ce processus.
Et quels sont ces grands points qui doivent être résolus? Quels sont ces grands points qui doivent être résolus dans si peu de temps?
On a demandé à la CENI qu'il puisse tout à fait se sorte mettre à jour ou bien publier la cartographie des bureaux de vote, des sites et des centres de vote. Mettre tout à fait se sorte, c'est de respecter les dispositions légales qui sont contenues dans la loi électorale pour la publication et l'affichage des listes électorales. Et si on va harmoniser cette site où il y avait une certaine discordance, où il n'y avait pas une harmonie entre les données publiées dans la cartographie et les données qui sont sur la liste que la CENI a présentée, et qu'on parvenait à réduire ces égards-là, je crois qu'on pourrait aller aux élections sans qu'il y ait de problème là-dessus.
Jérôme Bonceau, le président de la Ligue des élections libres et transparentes en RDC.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
Les rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda se félicitent de la comparution de Sosten Muniemana, accusé dans le génocide de 1994. Ils souhaitent tout de même que ces procès s'accélèrent pour que tous les suspects soient jugés. De Kigali, la correspondance de Jean Damascène Manishimwe.
Devant la cour d'assises de Paris, Sosten Muniemana, gynécologue à l'hôpital universitaire de Butare, est poursuivi pour le massacre des Tutsis dans cette ville, située à 130 km au sud de Kigali. Pour les rescapés du génocide, voir Muniemana faire face à la justice est un geste encourageant.
C'est un grand soulagement. Si tous les suspects pouvaient être jugés ici, même devant nous, ça nous aiderait beaucoup.
S'il commence à être jugé, ça va un peu soulager les pressions de certains et les rescapés seront ravis de voir que justice est rendue.
Ce sentiment de satisfaction est partagé par le collectif des partis civils pour le Rwanda CPCR, l'une des organisations qui ont porté plainte contre son médecin rwandais. Alain Gauthier est président de ce collectif.
Ah ben pour nous, c'est une grande satisfaction. Nous avons attendu tellement longtemps que le rôle de Sosten Muniemana soit reconnu devant la justice française. Alors pas spécialement pour nous, collectif des partis civils pour le Rwanda, mais nous pensons surtout aux survivants, aux rescapés, à tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille sur la colline de Tumba. C'est pour eux surtout que nous nous battons.
Pour Maître Richard Gisagara, l'un des avocats qui suivent de près les procès pour génocide à Paris, il est probable que certains suspects échappent à la justice au regard du nombre élevé des suspects et de leur âge avancé.
Il y a dans les tuyaux de la justice une trentaine de dossiers qui sont pendants devant la justice. Certaines personnes sont mises en examen, d'autres les enquêtes sont en cours, d'autres les dossiers sont terminés. Au rythme actuel, je pense qu'il y aura beaucoup, malheureusement, beaucoup de personnes qui vont échapper à la justice parce qu'à ce rythme-là, on ne va pas pouvoir juger tout le monde.
Sostene Mounyemana, 68 ans, est poursuivi pour participation à une entente en vue de la préparation du génocide. Pour génocide, crime contre l'humanité, complicité de génocide et de crime contre l'humanité, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Jean Damasenimani Chimé, pour VOA Afrique, Kigali.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se rencontrent demain mercredi en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Les responsables américains ne s'attendent pas à des avancées majeures dans les relations entre les États-Unis et la Chine, comme le rapporte Bill Gallo de la VOA depuis Séoul. Le récit est signé Arzuma Compaoré.
Selon des responsables américains, l'un des principaux objectifs du sommet est simplement de faire en sorte que les deux parties continuent de se parler. Les États-Unis veulent s'assurer que les tensions ne dégénèrent pas en conflit. Ici, un avion de chasse chinois s'approche d'un avion américain en mer de Chine orientale en juillet et tire des fusées éclairantes. Le Pentagone a fait état de près de 200 incidents de ce type au cours des deux dernières années. En janvier, ce ballon de surveillance chinois a survolé le continent américain. Un avion de chasse américain a finalement abattu le ballon au large de la Caroline du Sud, mais pas avant que les relations entre les États-Unis et la Chine ne se soient détériorées. Aujourd'hui, les relations semblent se stabiliser. Xi Jinping a reçu de nombreuses délégations américaines et a tenu des propos plus optimistes sur les relations.
J'ai dit à de nombreuses reprises, y compris à plusieurs présidents, que nous avions mille raisons d'améliorer la relation entre la Chine et les États-Unis, mais pas une seule raison de les gâcher.
La pression intérieure explique en partie la diplomatie plus souple de Xi. La croissance économique de la Chine après la crise du Covid a été beaucoup plus lente que prévu. Selon l'analyste Amanda Xiao, Xi a probablement été pris au dépourvu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Nous avons vu l'opposition entre les démocraties et les pays autoritaires. Et cela a placé la Chine du côté des pays autoritaires. Cela a donc créé un effet de ralliement pour Washington et ses alliés et partenaires qui ont formé une sorte de coalition anti-Chine.
Mais les choses pourraient se corser à partir de là. Le prochain scrutin à Taïwan pourrait entraîner la réélection d'un gouvernement très méfiant à l'égard de Pékin. Alors que la campagne électorale présidentielle américaine s'intensifie, de nombreux analystes estiment qu'il s'agit peut-être d'un moment rare pour les États-Unis et la Chine d'améliorer leurs relations.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Josel Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.